10 novembre 2022, Twitter.
Je suis désolé, j'ai merdé. J'aurais dû mieux faire.
C'est en ces mots que Sam Bankman-Fried décide de briser la glace. 2 jours seulement après son dernier tweet en date du 8 novembre, faisant état d'un potentiel rachat de FTX par Binance. Oui, c'est la faillite de la décennie. FTX, la deuxième plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies, vient de faire faillite. 32 milliards de dollars volatilisés en quelques jours. 100 000 créanciers ont perdu parfois les économies d'une vie. Sam continue de s'expliquer sur Twitter.
Quoi qu'il en soit, maintenant, ma première priorité, et de loin, est de faire les choses bien pour les utilisateurs. Et je vais faire tout mon possible pour y parvenir. Prendre mes responsabilités et faire ce que je peux.
Je vous emmène aujourd'hui sur les traces d'un entrepreneur dont la réussite folle le fait devenir milliardaire en seulement 5 ans avec les cryptos. Un entrepreneur dont l'histoire se termine mal, Sam Bankman-Fried. Dans ce deuxième et dernier épisode, Sam décide de sauver le monde des cryptos. Mais au lieu de le sauver, il le coulera. Et lui avec. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouat et ce podcast est produit par Inspire Média. Sam Bankman-Fried est une légende vivante dans le milieu de la crypto en ses débuts 2021. Et plus que la crypto, en octobre 2021, il fait même la couverture de Forbes. Avec ce titre, le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, seul Zuckerberg a été aussi riche à seulement 29 ans. Dans cet article, il reconnaît pourtant
« Je me suis impliqué dans la crypto sans avoir la moindre idée de ce qu'était la crypto. »
D'ailleurs, Sam est devenu riche non pas pour changer l'humanité, mais pour donner un maximum d'argent. Il croit que l'argent est fait pour être donné et partagé au plus grand nombre. Il croit en l'altruisme effectif. Un nouveau Elon Musk est né ce jour-là. Un Elon Musk dont l'étoile est alors au firmament. Il finance partis, associations et le tout depuis les Bahamas. Il vient même au secours du marché des cryptos en mai 2022. C'est d'abord BlockFi, une société de prêts en crypto, qui se retrouve en difficulté. Sam, par l'intermédiaire de Alameda, lui accorde un prêt de 400 millions de dollars. Il essaie même de sauver une autre crypto-banque, Voyageur Digital, mais cette fois sans succès. Mais c'est le profil du mania des cryptos qui fascine le plus. Comme le dit un journaliste,
« Le gars, il se balade en chaussettes et en t-shirt froissé. Il est végétalien, il dort sur des poufs et signe des deals avec les plus grands investisseurs de la planète en jouant aux jeux vidéo. »
Évidemment qu'il est fascinant.
À cela, vous ajoutez le fait qu'il conduit une voiture d'occasion et vit en colocation avec 9 autres personnes. Un vrai personnage de roman.
Mais ce journaliste ne dit pourtant pas tout. Il est aussi décidé à donner un maximum de sa fortune en suivant les préceptes de William McCaskill.
L'idée fondamentale est que l'on peut gagner de l'argent et en redistribuer une grande partie aux fondations. Les jeunes idéalistes que vous êtes croient que pour faire le bien, il faut aller bosser dans des ONG. Non, c'est une erreur. Faites de la bourse, faites des métiers qui rapportent beaucoup d'argent et redistribuez-en, vous aurez plus d'impact.
Pourtant, derrière ce personnage de roman, une réalité commence à se voir. Le mythe est décidément trop beau. Au lancement de FTX, Changpeng Zhao, dit CZ, met 100 millions de dollars dans la société en 2019. Changpeng Zhao fait confiance au jeune Sam pour évangéliser un marché qui doit avoir le plus d'acteurs possible pour faire avancer la cause des cryptos. Mais CZ oublie une chose. FTX et Binance, sa plateforme, sont aussi et surtout des concurrents. Une concurrence qui va commencer à mettre des tensions entre CZ et Sam. Dans un premier temps, Sam rachète les parts de CZ en lui donnant des parts de sa monnaie virtuelle, le FTT. En 2022, les positions de CZ sur le FTT sont de plus de 2 milliards de dollars. En parallèle, Sam commence un travail de lobbying auprès du Congrès américain et dans ses échanges avec les sénateurs, il n'y va pas par quatre chemins. Congrès américain, Washington, début 2022, bureau de la sénatrice démocrate Maggie Hassan.
Bon, Sam, qu'est-ce que vous voulez qu'on pousse à la Chambre ?
Maggie, la crypto est trop dérégulée et c'est dangereux pour tout le monde. C'est le Far West. Il faut proposer des règles plus strictes de contrôle des flux monétaires sur les plateformes.
Ah bon ? Lesquelles ? Il me semble que vous avez vous-même une plateforme, non ?
Oui, mais on est en train de mettre en place les contrôles nécessaires pour entrer dans les obligations légales. Par contre, Binance n'a aucun contrôle et je suis sûr qu'ils blanchissent de l'argent, sans s'en rendre compte.
Sam, ce que vous dites, c'est très grave.
Cette conversation entre la sénatrice et SBF sera rapportée à CZ, qui comprend alors qu'une guerre est désormais engagée entre les deux hommes et les deux plateformes d'échange. Tous les coups sont permis. Les tensions continuent de monter tout l'été 2022 entre eux. Mais, le 2 novembre, une révélation d'un journaliste, Ian Allison de CoinDesk, le journal des cryptos, fait l'effet d'une bombe.
Il apparaît que les comptes entre FTX et Alameda sont étroitement liés entre eux et que la société de trading Alameda traite des deals avec l'argent de FTX et de ses utilisateurs.
La révélation crée un choc. Normalement, il doit toujours y avoir une séparation entre la société de trading et une plateforme qui fait les transactions. Surtout si c'est pour utiliser l'argent des dépôts des clients. Une pratique d'ailleurs interdite pour les banques depuis 1929. C'est pourtant le coup que CZ attend et il décide de liquider dans la foulée toutes ses positions sur la plateforme FTX alors qu'il a près de 2 milliards de dollars.
En raison des récentes révélations qui ont été faites, nous avons décidé de liquider tout FTX restant dans nos comptes.
Puis, avec ce retrait, toute la communauté des cryptos commence à retirer ses fonds détenus sur la plateforme FTX, soit 5 milliards de dollars de retrait en quelques jours. C'est la débandade. FTX est désormais en danger de défaut de paiement. Sam, lui, est foudrage et réagit sur Twitter le 7 novembre à ce qu'il considère comme une attaque personnelle.
Un concurrent est en train de nous attaquer avec des fausses rumeurs. FTX est en bonne santé, nos actifs aussi. Nous pouvons couvrir tous les retraits de nos clients.
Pourtant, quelques jours plus tard, retournement de situation.
Mettons nos différends de côté, Sam, ça part dans tous les sens. Il faut arrêter la situation. Et si je te rachetais pour sauver le marché ?
Écoute, j'ai plus trop le choix. J'ai besoin de liquidité. Sinon, c'est la faillite dans quelques jours.
Oui, et ta chute serait catastrophique. Envoie tes comptes à mes équipes. On va préparer une lettre d'offre.
Le 8 novembre, CZ annonce sur Twitter qu'il va racheter FTX. Et Sam enchaîne, toujours sur Twitter, en montrant l'intérêt d'un accord entre les deux entreprises. Pourtant toujours, le 8 novembre, un des assistants de CZ revient vers lui après avoir compilé les données fournies par FTX.
Regarde Sisi, je n'arrive pas à le découvrir, mais on dirait qu'ils ont utilisé les fonds déposés sur la plateforme FTX pour faire du trading. C'est illégal. Ils risquent une enquête fédérale, voire pire. La gestion est désastreuse et on n'y comprend pas grand-chose.
Ok, on lâche le deal.
Le 9 novembre, CZ annonce qu'il se retire du deal. C'est lent. La fin de FTX. L'annonce du retrait de CZ amorce la fin de FTX qui perd 94% de sa valeur dans la journée du 10 novembre. Pire, une dépêche de Reuters citant une source anonyme affirme que Sam aurait transféré l'argent des utilisateurs de la plateforme vers Alameda. Tout le marché des cryptos s'écroule en deux jours. Le Bitcoin, véritable marqueur du secteur, plonge à son plus bas niveau depuis plus de deux ans. Le 10 novembre, Sam prend la parole sur Twitter.
Je suis désolé, j'ai merdé, j'aurais pu mieux faire. Et surtout, j'aurais dû communiquer beaucoup plus récemment.
Le 11 novembre, FTX et Alameda déposent le bilan. Sam démissionne de son poste de CEO des deux sociétés. Les gendarmes de la bourse et la justice lancent alors des enquêtes sur Sam et les sociétés en faillite. Le 12 novembre, il est 10h34 aux Bahamas quand le jet privé de Sam décolle. Il disparaît quelque temps. En attendant, ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont perdu de l'argent. Des célébrités comme des épargnants sont laissés sur le carreau. Le fonds de pension des enseignants du Canada perd par exemple 125 millions de dollars. Oui. Sam Bankman-Fried est un escroc qui a volé les dépôts de ses clients sur FTX et a dépensé et investi cet argent à ses propres fins. Sam, lui, ne semble pas affecté par les enquêtes en cours par la justice américaine et continue de prendre la parole activement sur Twitter ou auprès de journalistes, contre l'avis de ses avocats. Depuis les Bahamas, il donne d'ailleurs sa première interview publique le 30 novembre avec le journaliste Andrew Ross Sorkin de CNBC. Une interview cash où le journaliste attaque Sam sans relâche.
Que vous disent vos avocats en ce moment ? Suggère-t-il que c'est une bonne idée pour vous de parler ?
Non, ils sont pas du tout d'accord. Le conseil classique, ne dites rien, se retirer dans un trou. Et ce n'est pas ce que je suis, ce n'est pas ce que je veux être. Je pense que j'ai le devoir de parler aux gens. J'ai le devoir d'expliquer ce qui s'est passé. et je pense que j'ai le devoir de faire tout ce que je peux pour essayer de faire ce qui est juste.
Mais vous avez fait perdre de l'argent à des gens qui ont économisé cette épargne toute leur vie. Qu'avez-vous à leur dire ?
Écoutez, j'ai merdé. J'étais le PDG de FTX, cela signifie que j'étais responsable.
Alors que vous, vous avez encore beaucoup d'argent.
À ma connaissance, je n'ai plus rien. Je n'ai pas de fonds cachés ici. Tout ce que j'ai, je le dévoile. Je pense qu'il me reste une carte de crédit valide. Il pourrait y avoir 100 000 dollars ou quelque chose comme ça sur ce compte bancaire.
Pourtant, le pire est à venir. Dans une dernière interview à Vox, Sam affirme que l'altruisme effectif n'est qu'une façade pour récolter de l'argent.
L'éthique est un jeu stupide pour des Occidentaux éveillés, pour que tout le monde nous aime.
Les abus et les découvertes s'accumulent, une chute sans fin pour le roi des cryptos. C'est le liquidateur des deux sociétés Alameda Research et FTX qui tire le premier. John Ray Troisi a aussi été le liquidateur d'Enron au début des années 2000 et ce qu'il découvre chez FTX et Alameda le stupéfait.
Dans toute ma vie et ma carrière, je n'ai vu un tel échec dans la gestion d'une entreprise et le manque total des contrôles d'entreprise à tous les niveaux d'une organisation. Cette opération était simplement gérée par une bande de gamins aux Bahamas.
Les dépenses les plus farfelues se sont faites dans un océan d'argent. Les salariés veulent des livraisons Amazon qui ne desserrent pas les Bahamas. C'est pas grave, ils affrètent un jet privé qui fait la navette depuis Miami pour le livrer des colis. Chaque salarié a son logement de luxe aux Bahamas, coût 300 millions de dollars. Et le tout avec les repas servis 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Les déclarations et les découvertes s'accumulent depuis le 10 novembre et la faillite de FTX. Malgré les prises de parole de Sam, celui-ci reste aux Bahamas. Il sait qu'il peut à tout moment être inculpé. Le 12 décembre, un procureur de New York inculpe Sam Bankman-Fried pour fraude, conspiration et blanchiment d'argent. Dans sa résidence des Bahamas, près de la station Albany, Sam découvre la nouvelle.
Monsieur Bankman-Fried, je viens de recevoir la confirmation du procureur de New York. Vous êtes inculpé de fraude et de blanchiment d'argent.
Oui, on s'y attendait de toute façon.
Oui. Mais ils ont lancé un mandat d'arrêt et la police des Bahamas peut arriver à tout moment.
Quelques heures plus tard, dans cette résidence des Bahamas.
Monsieur Bankman-Fried, ouvrez la porte, vous êtes en état d'arrestation.
Puis, Sam se lève tranquillement, met une veste et suit les policiers en nombre devant sa résidence. C'en est fini pour lui. Une nouvelle aventure commence, celle de la prison. Le 21 décembre 2022, Sam Bankman-Fried est extradé aux États-Unis et lors de sa dernière audition à Nassau, capitale des Bahamas, devant les juges, il fait cet aveu.
Je veux que les clients concernés récupèrent leur argent.
Dans la foulée, le 22 décembre, il est présenté à un juge new-yorkais lors de sa première audience. C'est un Sam fatigué qui se présente pour cette première audience, vêtu d'un costume bleu foncé et de chaînes à la cheville, après une nuit dans une prison spéciale du FBI.
Messieurs, mesdames, asseyez-vous. Nous sommes ici présents pour l'inculpation de Monsieur Bankman-Fried. Pourriez-vous lui lire les accusations ?
Oui, bien sûr, monsieur le juge. Monsieur Bankman-Fried, ici présent, est accusé de fraude, conspiration et blanchiment d'argent.
Monsieur Bankman, j'accepte de vous libérer sous caution pour un montant de 250 millions de dollars et sous la responsabilité de vos parents. Par ailleurs, vous devrez porter un bracelet électronique. Êtes-vous bien au clair sur ces conditions ?
Oui, je les comprends.
Sam est dans l'attente désormais de son jugement. Ses deux anciens associés, Caroline Eliasson, l'ex-CEO de Alameda Research, et Gary Wang ont eux plaidé coupables et collaborent avec la justice américaine. Les faits s'accumulent pour Sam, qui risque désormais de passer une grande partie de sa vie en prison. Une vie qui ne rendra probablement jamais l'argent à tous les épargnants. Une vraie leçon aussi pour les acteurs des cryptos qui se croyaient épargnés de la gestion des risques. Une vraie leçon pour un homme qui s'est cru au-dessus des lois. Et ça, c'est une autre histoire. Merci pour votre fidélité. Alors tant que j'y pense, Ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Et tout ce travail, c'est évidemment une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Sarah Brevet pour l'écriture et la recherche, et Morgane Bouchiba pour le son, mais aussi tous les acteurs qui interviennent dans les dialogues. Vous l'avez entendu, il y a pas mal d'acteurs. Fabien, Gaël, Céline, Jean-François, bref. Si vous avez aimé, si vous avez été inspiré, pensez bien à mettre des étoiles et surtout à parler de ce podcast. C'est ce qui me permet, et ce qui permet aussi d'avoir beaucoup plus de visibilité pour tout ce travail. Et ça, c'est évidemment une autre histoire.